Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc j'ai l'impression que je suis un intervenant et en même temps un animateur. Donc je vais introduire mon propos sans savoir forcément à qui je parle. Alors, il y a des têtes connues et puis il y a d'autres qui ne le sont pas, en tout cas par moi. Donc ce que je vous propose après un propos liminaire, c'est peut-être de débattre, parce que c'est des sujets sur lesquels... Il n'y a pas un expert qui vient vous révéler la vérité. Ce sont des sujets un peu nouveaux, où on est un petit peu tous à explorer les contours d'un secteur qui est en train d'émerger. Et ce que je vous propose donc, c'est, au-delà de ce que je peux présenter, c'est assez rapidement d'être dans un débat. Si vous avez, vous, des questions, il y a peut-être ici... des promoteurs de résidences seniors, enfin il y en a certainement, j'en reconnais. Il y a peut-être des gens qui se disent pourquoi pas moi, et ils ont parfaitement raison de penser à devenir d'éventuels entrepreneurs dans un secteur d'avenir. Donc je ne connaissant pas le profil des gens qui sont ici, ce que je me permets c'est de faire une introduction et de débattre ensuite. Je voudrais d'abord... situer le sujet qui est le nôtre ce soir dans un contexte de politique plus générale et d'insister sur ce que je crois qui apparaît en ce moment sous nos yeux, c'est un changement de paradigme des politiques publiques qui ont été marquées depuis 10-15 ans par les efforts nécessaires autour de la solvabilisation et de l'organisation, d'ailleurs plus généralement, de la prise en charge de la dépendance. Notre pays en avait bien besoin, il y avait un certain retard sur la question, et donc pendant 10-15 ans, mais certains d'entre vous en ont été des acteurs, je viens même d'en voir un qui est un responsable d'établissement qui a connu toutes ces évolutions. Mais au fond, au cours des 10-15 dernières années, nous nous sommes concentrés sur quoi ? Sur la modernisation des maisons de retraite, qu'on a ensuite appelées EHPAD, des EHPAD. On les a modernisées, on les a rationalisées, on les a professionnalisées, on les a regroupées. Et donc ce monde très épars, un petit peu amateur... encore dans les années 80-90, c'est largement structuré, restructuré et professionnalisé. Ça a été le grand chantier des années 2000. C'est ce qu'on a appelé la réforme de la tarification des EHPAD, assez improprement d'ailleurs, parce que ce n'était pas une réforme, c'était une révolution, et que c'était moins une réforme de la tarification qu'une révolution de la qualité. Il y avait, à la fin des années 90... de très nombreuses maisons de retraite qui faisaient 30, 40, 50 lits. Aujourd'hui, c'est un phénomène exceptionnel que d'avoir des EHPAD de 40, 50 lits. La bonne taille maintenant de l'EHPAD, c'est 70, 80, jusqu'à 125 lits. Et la réforme de la tarification, la médicalisation des établissements, le fait d'avoir internalisé les dépenses de santé, ont nécessairement augmenter la taille à partir duquel une maison de retraite devenait viable, voire rentable. Et donc la physionomie même des établissements a changé. La maison de retraite des années 80, limite pension de famille, où on venait jouer aux cartes quand on était une veuve du préfet, ça c'est terminé, on est passé à... quelque chose qui est au fond effectivement plus proche peut-être de ce qu'on connaît dans le secteur sanitaire, c'est-à-dire un établissement qui prend en charge des personnes qui ont des problèmes de santé et avec du personnel médical et paramédical. Pendant cette décennie, il n'y a pas eu que la restructuration des EHPAD. Il y a eu aussi la création de l'allocation personnalisée à l'autonomie. Je vous rappelle... qu'en 1997, on crée pour la première fois la PSD, la prestation spécifique dépendance, 120 000 bénéficiaires au bout de 4 ans. 10 ans après, 1 200 000 Français bénéficient de l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui est une allocation évidemment à la fois plus importante et beaucoup plus ouverte. Et donc cette décennie aura été aussi le déploiement, c'est jamais assez, mais la réalité c'est que pendant 10 ans, on a vu le nombre de bénéficiaires d'une allocation dépendance décupler dans notre pays. Et puis il y a eu d'autres événements, la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui a rendu très visible les problématiques de perte d'autonomie au plan national, puisque maintenant il y a une caisse pour ça, une agence, qui traite à la fois des questions de handicap et de perte d'autonomie des personnes âgées. Donc tout ça pour dire qu'au fond, il y a encore plein de choses à faire, notamment évidemment sur le reste à charge des familles en EHPAD. Mais pendant 10-15 ans, les pouvoirs publics au sens large, les pouvoirs publics nationaux, mais évidemment aussi les opérateurs locaux que sont les conseils généraux, se sont beaucoup concentrés sur la prise en charge de la dépendance, sur sa modernisation. Et de ce point de vue-là, franchement, le bilan est plutôt positif. Alors on arrive à une période qui a démarré au fond il y a 2 ans maintenant environ, où la politique publique est en train d'évoluer. Et évidemment, il y a 2 phénomènes majeurs qui ont traduit cette réorientation des politiques publiques. Le premier acte majeur, c'est évidemment la loi qui vient d'être adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, qui s'appelle « Loi d'adaptation de la société au vieillissement ». Pour les moins informés d'entre vous, j'ai été l'auteur d'un rapport que j'ai remis au Premier ministre en mars 2013 qui préfigurait cette loi. Un rapport sur l'adaptation de la société au vieillissement qui m'avait été commandé en septembre 2012 par le gouvernement, qui avait déjà donc dans l'esprit de ne pas faire un rapport et donc une loi sur la dépendance, mais de faire une loi qui embrasse l'ensemble des problématiques auxquelles nous sommes confrontés dans le cadre du vieillissement de la population française. Et puis le deuxième événement qui a eu lieu en 2013, c'est la structuration en 3 étapes de la silver economy dans notre pays, et dont ce salon est évidemment aujourd'hui à la fois la traduction et le symbole. Création d'une filière silver economy en avril 2013, à cause aussi d'un fait majeur qui n'avait jamais existé précédemment, c'est la réunion d'un ministre des personnes âgées et d'un ministre de l'industrie qui se parlent et qui décident ensemble de promouvoir une politique publique en faveur de cette silver economy. Création d'un comité de filière en juillet 2013 et publication d'un contrat de filière avec de véritables objectifs de politique publique en décembre 2013. Donc depuis 2 ans, nous avons eu à la fois cette loi et puis en même temps la création de cette filière qui ont symbolisé ce changement de paradigme des politiques publiques. Un changement de paradigme qui est fondamentalement assis sur 3 ressorts que je voudrais vous décrire ici. Le premier ressort, il est d'ordre sociologique. Les retraités d'aujourd'hui et de demain n'ont plus rien à voir avec ceux d'hier. Ceux qui ont été dépendants dans la fin du XXe siècle sont des gens qui sont nés au début du XXe siècle, qui sont nés dans une France où l'espérance de vie était de 45-50 ans, et qui, 80-90 ans après, se retrouvent à des âges qu'ils n'avaient pas du tout imaginés dans la France dans laquelle ils sont nés. Et donc, d'une certaine manière, on a eu toute une série de générations qui n'ont pas été sacrifiées, puisqu'elles ont été prises en charge, mais une génération un peu, disons, surprise par, à la fin du XXe siècle, par le nombre de centaines de milliers de personnes qui, d'un coup, s'est retrouvée très âgée en situation de perte d'autonomie. Cette génération-là, elle avait des enfants. Et ces enfants-là sont en train de devenir les seigneurs d'aujourd'hui et de demain. Et donc, ces seigneurs-là, eux, ils savent. Ils savent ce que c'est que une maison de retraite. Ils savent ce que c'est que devoir trouver et gérer une aide à domicile un peu au dernier moment, en urgence. Ils savent ce que c'est que réunir les frères et les sœurs pour arriver à payer la fin de la facture de la maison de retraite. Bref, ils connaissent les affres liées à la perte d'autonomie d'un parent. Et ils savent que le parent, en l'occurrence, dans quelques années, ça va être eux. Et donc à cette génération-là, qui a commencé déjà, hein, à cette génération-là, parler de prévention, parler d'adaptation, parler d'anticipation, ça va sonner différemment à leurs oreilles que les générations précédentes. On va être en capacité d'avoir face à nous, et on le voit déjà aujourd'hui, et je vais y revenir, des retraités qui ne sont pas dans la négation de la vieillesse, qui sont au contraire dans cette anticipation, plus je vais me préparer, moins je serai condamné à la dépendance. Deuxième phénomène de caractère plus démographique, et qui est majeur dans le sujet qui est le nôtre ce soir. Nous connaissons une évolution, c'est celle du nombre de personnes âgées dépendantes. 1 million aujourd'hui, 1,5 million dans 20 ans, une hausse de 50%, c'est important, mais le chemin est balisé d'une certaine manière. Mais on assiste à l'émergence d'un nouveau phénomène démographique, qui lui est par contre nouveau, et qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais qui est à la cause de toutes les évolutions que je viens de décrire. Nous allons assister à partir de maintenant à l'explosion du nombre de personnes très âgées, mais valides. À l'explosion du nombre de personnes qui vont vivre au-delà de 80, 85 ans, 90 ans, mais qui n'iront pas en EHPAD, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Eh bien, cette population-là, elle va être quand même fragile. On ne court pas le 100 mètres en 15 secondes à 85 ans. Mais en même temps, on ne va pas pour autant en EHPAD. Et donc, cette génération-là, ces générations-là, de personnes très âgées, mais valides, eh bien, elles vont vouloir continuer à vivre chez elles, elles vont vouloir continuer à avoir des relations sociales, à pouvoir se mouvoir dans la ville. Eh bien, c'est vraiment le cœur de cible de la loi d'adaptation qui est actuellement en débat. C'est comment préparer une vieillesse harmonieuse pour ces gens qui sont vieux sans être vieux, qui sont vieux et, comment dire, un peu fragiles, sans être dépendants. Troisième phénomène qui préside à ce qu'on va dire ensuite, c'est la réémergence, finalement, au fond, du domicile comme objectif majeur de politique publique. Il n'y a pas un discours de n'importe quel responsable politique, moi je suis conseiller général depuis quelques années, j'en sais un peu quelque chose, qui ne commence pas par « les Français préfèrent vivre à domicile ». Très bien, mais une fois qu'on a dit ça, la réalité c'est que les politiques publiques n'ont jamais suivi. Au fond, les politiques publiques, comme je le disais, se sont beaucoup plus concentrées sur les établissements que sur l'organisation du maintien à domicile. Là, c'est en train de changer. On voit bien que cette fois-ci, enfin, dans la loi, on le voit. Dans les priorités budgétaires, on le voit, puisque l'essentiel des 600 millions d'euros dédiés à cette nouvelle loi sont fléchés vers le domicile, et notamment vers l'APA à domicile. Et donc le domicile redevient, ou devient tout court, la véritable priorité des pouvoirs publics. Mais pas seulement le domicile, comme au sens médico-social du terme, pas seulement l'auxiliaire de vie qui vient à domicile, l'aide-soignante qui vient à domicile, mais le domicile dans son écosystème, dans son environnement. Comment rend-on possible le maintien à domicile? Eh bien, on le rend possible dès lors que le domicile non seulement est accessible, il est adapté, il se situe dans une zone où on n'est pas isolé et où les transports publics et les commerces sont à proximité. Et donc c'est pour ça que la loi comporte toute une série de développements sur la mobilité, les transports, l'urbanisme, la ville, le concept de ville amie des aînés qui figure texto dans la loi. Et donc, le domicile qui revient au cœur de la politique publique en faveur du vieillissement, mais vous voyez, le domicile au sens large et dans toutes ses composantes. Alors, si je me suis permis une introduction un peu longue, c'est parce que le but de l'opération, ce n'était pas de venir en vous disant « voilà ce que c'est qu'une résidence senior, il y a des murs, des portes, des fenêtres, voilà ». C'est que la résidence senior, elle arrive dans ce contexte-là. Et quel est le produit de ces différentes évolutions législatives, réglementaires, sociologiques, démographiques et politiques? Des résidences seniors, au fond, il y en a depuis longtemps. Il y en a depuis 20 ans, 30 ans. On les appelait résidences services plutôt que résidences seniors au demeurant. Mais au fond, la résidence senior émerge comme un phénomène nouveau pour toute une série de raisons que je viens, au fond, d'évoquer. La première d'entre elles, d'abord, c'est que les EHPAD ne sont plus les maisons de retraite des années 80. Les EHPAD sont désormais des établissements, qu'on le veuille ou non, et ce sera de plus en plus le cas, des établissements de plus en plus hyper spécialisés, non seulement sur la dépendance, mais plus spécifiquement encore sur la dépendance psychique. Le GMP, le GIR moyen pondéré, cet instrument, vous savez, qui, entre 0 et 1000, permet de mesurer la dépendance d'un établissement. 0, vous avez que des gens super valides, 1000, ils sont tous totalement grabataires. Bon, bien, aujourd'hui, la moyenne des EHPAD est autour de 700. Et tendanciellement, elle va vers les 800. Et comme en plus, les pouvoirs publics ont fermé le robinet des autorisations nouvelles, moins il y a de création, plus le stock est là, plus il va devoir gérer le public le plus obligatoire, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une tendance qui permettra aujourd'hui, je ne dirais pas ça s'il y avait toujours beaucoup d'autorisations délivrées. Parce que ça permettrait, vous voyez, d'avoir des EHPAD dépendants, un peu moins dépendants. Bon, mais là, non. Quand vous avez un parc qui est relativement maintenant restreint pour les jeunes des avenirs, eh bien, mécaniquement, la dépendance moyenne ne cesse d'évoluer. Laissant ainsi un vaste espace aux établissements qui accueillent ou qui ont prétention d'accueillir des personnes plus valides. Alors, c'est quoi ces établissements pour valides aujourd'hui? Ils sont normés aujourd'hui, ils s'appellent des logements foyers. Réglementairement, un logement foyer, c'est un établissement autorisé par le Conseil général, mais qui doit recevoir des personnes valides, puisque le GMP doit être inférieur à 300. Mais, vous le savez, les logements foyers existent depuis les années 60, se sont beaucoup développés dans les années 70-80. Certes, ils s'en créent encore aujourd'hui, mais de moins en moins. Et le stock existant de logements foyers demeure de plus en plus vieillissant. Souvent, ils ont été construits par des bailleurs sociaux dont la priorité, franchement, dans une ville, n'était pas le foyer logement, mais plutôt le quartier qu'ils devaient gérer à côté. Et donc, beaucoup de foyers logements se sont dégradés en termes immobiliers avec le temps. 69% des logements foyers en France aujourd'hui sont gérés par des centres communaux d'action sociale. Généralement, ils ne sont pas propriétaires des murs. Généralement, ce sont donc des bailleurs sociaux qui ont parfois même voulu faire plaisir à la mairie en construisant une fois plus un logement foyer, mais sans forcément le rénover. J'en ai un dans ma ville, je sais de quoi je parle. Ils n'ont, au fond, créé le foyer logement que parce qu'il y avait un parc de 1000 logements par ailleurs, sociaux. Et puis, voilà, ce n'est plus aujourd'hui leur priorité. Donc, on est avec un parc d'établissements pour personnes autonomes, qui s'appelle les logements foyers, mais qui est un parc qui commence à devenir un petit peu vieillissant et en désuétude. Et donc a émergé en parallèle ces résidences seniors, mais qui se trouvent, elles, hors la loi. Hors la loi 2002, donc hors la loi qui régit le secteur social et médico-social. Donc ces résidences seniors ne sont pas des établissements sociaux et médico-sociaux. Et d'ailleurs, ils y tiennent. Et ils ont bien raison. Parce qu'il n'y a aucune raison que ces résidences seniors qui hébergent des personnes valides deviennent un établissement social et médico-social. L'hérésie, au fond, c'est que les logements foyers soient aujourd'hui dans le champ médico-social. C'est pas que les résidences seniors n'y soient pas. Alors, pour les raisons que je viens d'évoquer, on voit bien, comment dire, les facteurs de fond qui font émerger ces résidences seniors. Le facteur sociologique, on le voit là, sous nos yeux. De plus en plus de personnes de 75-80 ans vont se mettre à réfléchir au meilleur endroit, le plus adapté possible, pour vivre leur vieillesse. Surtout quand les personnes sont veuves ou veufs. Et donc la résidence senior devient à ce moment-là un prolongement de l'actuel domicile. Ça reste du domicile. Mais c'est un autre domicile. Parce que c'est ça que la loi montre aussi. C'est que la dichotomie entre établissement et domicile n'a plus de sens aujourd'hui. La question du domicile, c'est que le domicile peut prendre différentes formes, y compris quand elle est une forme collective. Donc, pour le facteur sociologique que je disais tout à l'heure, on voit bien que des retraités, des seniors, désormais, comprennent, anticipent, comme je le disais tout à l'heure, le fait que j'ai 70, 75 ans, je suis en pleine forme, les statistiques me donnent encore 20 ans à vivre, je vois bien que j'aurai quand même du mal à rester pendant les 20 prochaines années dans ce pavillon avec les marches, les escaliers le gazon à tondre. Et donc, je vais faire une démarche volontaire de rester dans mon domicile, mais dans un domicile qui est beaucoup plus adapté à mon état. Le facteur démographique, il joue évidemment sur la résidence senior. Puisque le facteur démographique que je décrivais tout à l'heure, ça veut dire quoi? Des centaines de milliers, des millions, dans les 30 ans à venir, de personnes, de Français, vont dépasser l'âge de 85 ans, sans avoir, mais la moindre idée, d'aller un jour en EHPAD. Mais entre eux, aller en EHPAD et aller et rester dans son domicile plus ou moins adapté, là encore, il y a tout une... Donc vous voyez, le facteur sociologique joue en faveur des résidences seniors. J'anticipe, je change mon domicile. Le facteur démographique joue aussi. Ça va être des centaines de milliers de personnes qui vont se retrouver, pour la première fois dans notre histoire, très âgées, mais valides. Suffisamment valides pour ne pas aller en EHPAD. Suffisamment potentiellement fragiles pour ne pas rester dans un domicile de façon isolée. Et ces deux facteurs-là, donc, me semblent donc militer pour le développement des résidences seniors. Des résidences seniors qui, au fond, ont peut-être cinq dimensions sur lesquelles il faut revenir. Un, la dimension de renforcement du lien social. On n'en parle jamais assez parce que les statistiques ne sont jamais totalement scientifiques là-dessus, et pourtant des études régulièrement sont publiées sur l'isolement dramatique. Dramatique. Mais comme ils ne se voient pas, et que ça fait rarement la une des journaux, mais l'isolement dramatique d'un certain nombre, d'une frange croissante de personnes très âgées. La résidence senior, c'est pas l'EHPAD, c'est pas non plus le domicile où la tentation de l'isolement social est prégnante. Il y a la question de l'adaptation des logements. 75% des seniors en France aujourd'hui sont propriétaires de leur logement. Mais l'immense majorité de ces logements ne sont pas adaptés à la dépendance ou à un vieillissement. La résidence senior, c'est par définition un logement adapté. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de résidences seniors qui ont décidé de se créer en mettant des marches partout. Donc la résidence senior, c'est par définition un domicile et en même temps, par définition, par essence, un logement adapté au vieillissement ou en tout cas à la fragilité. Troisième élément, et je suis président du CNR Santé depuis 2 mois, là, donc forcément j'en suis encore plus sensible, c'est l'introduction qui commence aujourd'hui, mais on n'en est qu'au tout début, à la préhistoire, des nouvelles technologies et du numérique. Les technologies et le numérique au service du vieillissement, au service de la prise en charge des personnes âgées fragiles. Nous n'en sommes qu'au tout début, mais il va de soi que ces technologies vont infuser dans les résidences seniors plus systématiquement et plus rapidement que dans les domiciles privés. Et donc là encore, ça peut être un facteur de diffusion des nouvelles technologies plus aisé que lorsqu'on reste à domicile. Quatrième facteur, la prévention. On reste seul chez soi ou même en couple chez soi. La prévention, il faut qu'elle vienne chez soi. C'est pas forcément un réflexe naturel. En résidence senior, tout concourt à la prévention. Les relations sociales, la piscine, l'aquagym, les activités qui sont proposées, qui sont optionnelles certes, mais qui existent, et qui permettent quand même de l'éveil. Un des facteurs premiers, de la dépendance, c'est l'isolement social. Quand on parle à personne, on devient plus facilement dépendant, et puis quand on ne se bouge pas. La résidence senior, on se bouge et on parle aux gens. Donc c'est des facteurs de prévention, bien plus développés que si on reste seul à domicile. Et puis enfin, la question de la mobilité. Je visitais encore il y a peu de temps des résidences seniors là à Tours. À 9h du matin, le minibus arrive pour aller au marché. On est chez soi, on aura le réflexe de temps en temps, peut-être qu'on l'aura de moins en moins, peut-être que c'est les voisins qui feront les courses. Enfin, là, l'effet d'entraînement, l'organisation du minibus, l'effet d'entraînement d'être 5-6 à le faire tous les matins, fait qu'évidemment, la question de la mobilité dans la ville est encouragée de cette façon-là. Donc, le lien social, l'adaptation du logement, les nouvelles technologies, la prévention, la mobilité des seniors, voilà 5 facteurs qui sont des facteurs majeurs pour le vieillissement de demain, qui sont, particulièrement encouragé par le concept même de résidence senior. Alors, pour en terminer, quel est le problème institutionnel politique aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas de problème majeur pour les promoteurs eux-mêmes. Ils se développent aujourd'hui. On voit que se développent dans les quatre coins de la France aujourd'hui des résidences adaptées. Adaptées, ça veut dire qu'elles sont en plein cœur de quartier ou en plein cœur de ville. Hein, la résidence à la campagne, bucolique, ça c'est fini. Hein. Bon. Donc il faut être, pour toutes les raisons que je viens de dire, la résidence senior, par définition, elle est au cœur du lien social, au cœur de la ville, au cœur du quartier, au cœur des commerces, au cœur des transports. Donc, les gestionnaires, eux, développent leur produit immobilier de cette façon-là. Il y a quand même un changement institutionnel qui est que le pouvoir d'autorisation n'est pas celui du président du Conseil général, non plus de l'État, mais c'est le maire. Le maire qui redevient, et ceux qui sont ici et qui développent des groupes de résidences seniors le savent bien, l'interlocuteur majeur, ça devient le maire. Ça devient le directeur de l'urbanisme de la commune. Hein? Beaucoup plus, au fond, que le Conseil général, l'ARS, qui sont des interlocuteurs naturels du secteur médico-social ou sanitaire. Mais là, ceux qui développent des produits immobiliers de résidence senior, leur interlocuteur, c'est le maire. Et ça tombe bien, parce que c'est quand même le maire qui est, lui, le plus impliqué et le plus à même de connaître les besoins locaux. Et voilà, et souvent, la résidence senior va se faire vraiment parce que le maire en a envie et avec le concours de la commune qui sait pourquoi elle a besoin de ce type d'établissement. Et puis l'autre chose, peut-être plus réglementaire, c'est de savoir aussi si nous avons besoin ou pas que les résidences seniors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, figurent en tant que telles dans la loi. Aujourd'hui, un EHPAD, on sait ce que c'est inscrit dans la loi. Un logement foyer, on sait ce que c'est peu ou prou inscrit dans la loi. Un service d'aide à domicile, c'est inscrit dans la loi. Une résidence senior, ce n'est pas inscrit dans la loi. Donc, une des premières questions, puisque nous avons effectivement, au-delà de mon exposé, fait une étude pour un certain nombre de groupes de résidences seniors, il y a la volonté, partagée, je crois, assez largement, qui n'aurait peut-être pas existé il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans, mais qui existe aujourd'hui, de faire en sorte que la loi reconnaisse le concept de résidence senior. Mais je verse la proposition au débat. La deuxième chose, c'est faut-il, oui ou non, qu'il y ait une forme, non seulement de reconnaissance par les pouvoirs publics de ce concept, mais au-delà de ça, qui est une reconnaissance quand même des qualités minimales, des canons minimaux auxquels doivent répondre ce type de résidence. Au fond, doit-il y avoir un label ? Et la réponse à laquelle nous sommes arrivés, les uns et les autres, c'est oui. Ceux qui sont sûrs de la qualité de leur prestation n'ont évidemment rien à craindre d'un label, mais le passé montre que il fut un temps où, quand dans une résidence senior, on trouve des gens totalement dénutris, eh bien ça fait un scandale, ça fait la une des journaux. Et vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez sur oui, mais c'est pas un établissement médico-social. À la fin, on n'y comprend rien. Et la seule chose qu'on sait, et la seule chose que l'opinion publique imprime, c'est que dans un truc qui ressemble quand même à un établissement collectif, il y a des gens qui se sont trouvés en situation de dénutrition. Donc je pense que la responsabilité de ceux qui, aujourd'hui et demain, vont mettre en place des résidences seniors, c'est d'avoir un minimum de règles communes qu'elles ont envie de respecter, donc ça ne pose pas de problème, mais qui permettra le moment venu à la fois d'être crédible auprès des pouvoirs publics, des maires, de les sécuriser, et puis surtout évidemment de sécuriser demain les consommateurs et les familles. Voilà le contexte général que je souhaitais vous décrire pour élargir la problématique. Pourquoi les résidences seniors émergent aujourd'hui et quels sont leurs 5 atouts principaux? Et puis enfin, la question un peu politique, institutionnelle, qui se pose là, c'est-à-dire que dans le cadre de la loi de la loi d'adaptation au vieillissement, qui n'en est qu'à sa première lecture, donc dans l'année 2015, Il y aura un autre rendez-vous législatif puisque le Sénat et l'Assemblée en deuxième lecture reverront ce projet de loi à la fin du printemps, avril-mai probablement. Eh bien, c'est le moment d'améliorer le texte. Or, le texte actuel fait un peu l'impasse, franchement, sur les résidences seniors, traite en un article des résidences-services première génération, mais ne traite pas de ce phénomène qu'on voit se développer sous nos yeux dans toutes les villes de France aujourd'hui, 500 résidences seniors à peu près aujourd'hui, mais qui se développent d'année en année avec peut-être 800, 900, 1000 établissements de ce type d'ici 5-6 ans. Parce que ça répond une fois plus à la demande, comme je l'ai expliqué. Donc on a intérêt, probablement, à ne pas se cacher le phénomène et à l'inscrire dans la loi, sans surtout corseter ce type d'établissement de règles et de normes. Personne ne veut de ça. Mais par contre, qu'il y ait un minimum de reconnaissance du phénomène et puis un minimum d'encadrement pour être sûr que demain, ces résidences sécurisent l'ensemble des familles et des consommateurs. Voilà, je peux encore faire une demi-heure, mais je pense que là, on peut conclure là-dessus. J'ai essayé de poser les jalons de ce qui peut être le débat aujourd'hui. Et je vous propose, je ne sais pas si c'est fait pour ça, s'il y a des micros qui se baladent, mais qu'on entame le débat avec ceux qui ont envie de poser des questions, y compris des questions très concrètes sur les résidences qui existent aujourd'hui et celles qui se développent. Merci à vous, en tout cas. Qui a envie de créer des résidences seniors? Voilà. Monsieur va nous dire pourquoi. Ou si vous avez... Ce n'est pas forcément des questions, hein, ça peut être des commentaires.
Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, c'est le résultat d'un bilan de compétences. Et donc, j'ai envie d'aller sur ce service-là. En plus, le marché est en train de grandir. Et que ça m'intéresse de mettre ma touche personnelle sur ce marché-là. Sur un concept qu'on est en train de travailler avec un collègue. Et justement, en tant que... je suis dans la catégorie des « pourquoi pas moi », ce que vous disiez tout à l'heure. C'est justement, qu'est-ce que... Par le label, en fait... C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, de bons professionnels, donc qui vont parler d'une labellisation. Mais derrière cette labellisation, vous entendez quoi, votre objectif? Est-ce que vous avez déjà une idée du minimum, je dirais, syndical que vous demanderiez pour avoir un label résidence senior?
Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, mais monsieur est un « pourquoi pas moi ». Donc le « pourquoi pas moi », c'est pourquoi, après tout, je ne créerai pas... une résidence senior. Tous ceux qui sont devenus des professionnels ne l'étaient pas avant de le devenir. Personne ici n'est né en sachant développer un concept de résidence senior. Et comme on est au début du phénomène, tous ceux qui ont déjà des connaissances en immobilier, prestations hôtelières, enfin tous les sujets qui sont un peu connexes et qui font le puzzle de la résidence senior peuvent évidemment être intéressés. Moi je me rappelle, j'ai pendant 12 ans été le délégué général du CINERPA, c'est-à-dire le syndicat des maisons de retraite privées, et j'ai vécu donc au début des années 90 cette vague où un ingénieur automobile à la retraite venait me voir parce qu'il voulait créer sa maison de retraite. Alors au début on pense que c'est un uberlu. Puis il y va, et puis il crée une maison de retraite qui est bien meilleure que beaucoup d'autres qui existaient à ce moment-là. Donc, voilà, quand on est au début d'un phénomène qui émerge, c'est normal, et c'est d'ailleurs sain, que viennent vers ce métier des gens qui, à un moment donné, sont d'origine un petit peu différente, et qui viennent avec leur culture. Le label, ça ne doit pas être la normalisation. Nous parlons ici des résidences seniors, mais nous, on aurait tout aussi bien pu élargir la problématique à l'ensemble de l'habitat alternatif. Je ne dis pas intermédiaire parce que cette notion d'intermédiaire, ça veut dire qu'il faut inventer quelque chose entre le domicile et l'EHPAD, ou le domicile et le cimetière, vous voyez, enfin, comme si c'était intermédiaire, une étape vers. Bon. Alors que ce sera en réalité pour beaucoup le logement de leurs 20-25 dernières années. Je parle d'habitat alternatif au domicile qui est la maison dans laquelle on a vécu pendant 30 ans avec sa femme, son mari, ses enfants, etc. Et donc ces habitats alternatifs, ils peuvent prendre la figure d'une résidence senior, mais vous avez entendu parler évidemment de ces modèles que sont les béguinages, les habitats regroupés adaptés, voilà, des villages seniors évidemment qui sont développés aussi depuis un petit moment. Donc les alternatives à non seulement aux établissements EHPAD, mais aux domiciles éparses, c'est une palette de solutions innovantes qui émerge au fur et à mesure. Et donc il est hors de question de brider cette diversité de l'offre par des normes ou par un modèle standard. Voilà. Le but de l'opération, c'est qu'une fois de plus, il y ait aussi un petit peu d'imagination. Je ne suis pas certain qu'on ait besoin tout à fait de la même chose dans le cœur des villes et des capitales régionales ou à Guéret. Et je ne suis pas certain qu'à un moment donné, dans un bourg de 3 à 4 000 habitants, vieillir signifie forcément aller à la sous-préfecture ou à la préfecture de 20 000 habitants. Voilà. Donc il faudra aussi inventer des modèles pour des bourgs moyens où la résidence senior n'est peut-être pas le modèle adapté, mais des formes d'habitat regroupés, collectifs. Voilà. Donc il faut vraiment laisser l'imagination se développer, parce que je pense que selon les territoires, les solutions sont différentes. Donc le label, c'est pas la normalisation. Et pour vous dire les choses, le label, ce sont pas les pouvoirs publics qui l'ont proposé. C'est ce rapport qui sera rendu public dans une dizaine de jours, qui pour la première fois propose un label des résidences seniors, ce rapport ayant été préparé et commandité par quelques grands groupes de résidences seniors. Je prends souvent l'exemple de la CAPEB, la Chambre des professionnels des artisans du bâtiment, que pendant mon rapport j'avais auditionné, et qui ont décidé à un moment donné de s'auto-octroyer, mais de s'auto-définir surtout, un label qui s'appelle Handibat. Hein, vous avez peut-être vu les camionnettes, je suis plombier, je suis électricien, Handibat, parce que j'ai suivi une formation particulière pour savoir comment adapter ma prestation à un public en perte d'autonomie ou à mobilité réduite. Eh bien, il y aura des résidences seniors demain qui demanderont un label, mais ce label, entre-temps, il faut le construire. Et ce label, il doit être construit par les professionnels eux-mêmes, en collaboration avec l'État. Mais par les... Enfin, c'est une profession qui doit s'auto-réguler en disant, voilà, selon nous, quelles sont les prestations minimales, le socle que nous garantissons à un public qui aujourd'hui ne sait pas trop ce que c'est qu'une résidence senior. Donc si on veut sécuriser ce public, et si accessoirement on veut sécuriser les élus locaux qui vont autoriser ce type d'établissement, on a quand même intérêt à leur donner, ce qui est bien normal, un socle minimal qui garantit. Et ce socle minimal doit être forcément à un moment donné quand même vu par les pouvoirs publics avec un tampon en disant ok, c'est bon, on est d'accord sur le fait que ça constitue le socle minimal. Donc l'idée, elle émerge aujourd'hui, autant vous dire que le label, il n'est pas encore ni élaboré ni pensé pour l'instant. Qui a envie de vivre dans une résidence senior? Madame.
J'espère que je ne suis pas la seule. Hein. Je suis directrice d'une résidence senior et dès que j'ai commencé à être mêlée à ce projet, je me suis projetée dans ce projet en tant que personne vieillissante en me disant, est-ce que c'est ce que j'attends? Parce que ça me paraissait très important que pour bien répondre à l'attente des futurs résidents qui sont maintenant les résidents de la résidence, on soit en harmonie, qu'on ait un objectif, qu'on y soit heureux. Parce que, résumons, puisque nous ne sommes pas dans un monde médicalisé, nous sommes des personnes qui sont avec, nous sommes entourés entre, les résidents sont des personnes qui n'ont pas des besoins particuliers sauf de bien vieillir, tout simplement au quotidien. C'est un mot qui revient souvent dans la résidence, c'est être simplement heureux. Et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ce bonheur. Et arrêtons toujours de chercher des situations, enfin, je le dis avec mes mots, hein, des situations de crise économique, tout ça. On est avec un public qui, quelquefois, a une moyenne d'âge de 85 ans, qui a une vie plus ou moins facile, mais qui vivent le quotidien, tout simplement, et qui demandent juste à être heureux. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie de vivre dans une maison résidence senior. Je trouve que ce sera une sécurité par rapport à ma vie personnelle. Ça rassurera sûrement mes enfants, puisque j'ai la chance d'être mère de famille. Et je serai aussi autonome, c'est-à-dire que je vieillirai comme si je peux, en étant autonome, vieillir comme j'en ai envie. C'est-à-dire que si j'ai envie de cacher quelques maladies que j'ai, quelques soucis, quelque chose, je sais que je ne suis pas seule, que le temps d'une nuit, je peux appeler quelqu'un parce que ces résidences sont sécurisées, que je peux confier quelque chose à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre, mais ça ne sera pas rapporté au mien. Ça me conforte dans ma liberté de vieillir. Donc j'aimerais vieillir dans une de ces résidences. Peut-être que ça évoluera comme projet. J'ai encore un petit peu d'années. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'envisage maintenant complètement parce que je travaille dans une résidence senior.
Écoutez, on aurait dit une plaquette publicitaire pour les résidences seniors. Mais,
désolé.
Mais c'est bien.
Non, même pas, vous voyez.
Mais parce que franchement, je crois que vous avez raison. Et moi, c'est la pression. Alors vous voyez, j'ai encore le temps d'y réfléchir. Mais c'est l'impression que m'a donné aussi la visite, après avoir quand même, au cours des 20 dernières années, visité plusieurs centaines d'EHPAD, c'est évidemment l'impression que donne la visite d'un certain nombre de résidents seniors, où on a l'impression d'être vraiment à son domicile et de se dire qu'au fond, on est vraiment mieux qu'à domicile. Et moi, au fond, le label ou la charte de qualité, elle pourrait presque tenir en une phrase, et vous l'avez citée. Voilà, j'ai envie d'être heureux. Bon, je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas la compléter un peu, sinon ça fait un peu court comme label. Mais au fond, c'est quand même ça l'objectif. Et quand on voit... Moi, je suis élu dans une ville de banlieue qui n'est pas très riche, dans le Val d'Oise. Et quand je vois les conditions dans lesquelles vivent un certain nombre de couples ou de veufs ou de veuves... âgés, c'est quand même eux qui cumulent les petites maisonnettes les plus anciennes, hein, où il y a les problèmes énergétiques les plus inquiétants. Voilà, il fait froid, il fait chaud, on paye beaucoup d'électricité, de gaz, on délaisse le jardin, c'est devenu une jungle parce qu'on a passé... l'âge de tondre le gazon et qu'on n'a pas d'argent pour payer quelqu'un pour le faire. Donc voilà, et on voit ces habitats se dégrader au fur et à mesure, les gens qui y sont à l'intérieur se flétrir avec l'isolement, avec et la même personne qui demain est dans une résidence senior, parce qu'il y aura aussi forcément plusieurs gammes, hein. C'est comme les EHPAD, il n'y a aucune raison que toute notre vie on aille, pour certains qui ont de la chance, dans un Sofitel, pour d'autres qui ont moins de revenus dans un Novotel, et puis pour d'autres dans un Ibis, et que comme par magie, à 80-85 ans, on soit tous dans la même catégorie. Donc il y aura forcément des résidences seniors plus ou moins de luxe, avec des prestations plus ou moins élaborées, comme il y a aujourd'hui des maisons de retraite plus ou moins luxueuses. Comment dire, il ne faut pas penser à une espèce de nivellement où, à partir de 80 ans, on devrait tous vivre dans le même environnement, alors qu'on n'a pas vécu sa vie de la même façon. Mais la résidence senior, franchement, pour des personnes qui sont isolées, qui ont peu de loisirs collectifs et qui ne font pas de sport, ça change la vie d'un coup, quoi. Voilà, bon. Et donc, moi, je pense qu'il peut vraiment y avoir... le réflexe là-dedans, il devient culturel. C'est que Papy Mougeot, dans son petit pavillon, un peu tout seul, un peu gronchon, etc., à 72-73 ans, je ne suis pas sûr que, culturellement, aujourd'hui, il ait le réflexe d'aller dans la résidence senior. Et donc, ça se fera aussi auprès d'un certain public, un peu avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la résidence senior, pour certains, c'est quand même l'équivalent d'un établissement et d'une maison de retraite, et donc, ça veut dire passer à autre chose. Bon. Et un des enjeux culturels, ça va être le lissage du passage du domicile privé d'aujourd'hui vers la résidence senior. Et qu'on n'ait pas l'impression, vous voyez, de monter une marche, mais d'avoir quelque chose de logique, de naturel. Et ça veut dire faire connaître les résidents seniors, que les gens se fassent une idée sur, la réalité des prestations qu'elles servent. Et donc, ça se mettra un peu de temps. Le public le plus éclairé le saura, le public le plus renfrogné, le plus isolé, justement, aura peut-être plus de réflexes culturels à rester chez soi. C'est un des enjeux sociétaux. Hein, il n'est pas économique, c'est vraiment un enjeu social, culturel, qui est un enjeu majeur si on veut que ce type de résidence se développe.
Oui, bonsoir. Donc, je suis un ancien directeur d'EHPAD et on s'est connus lors des... J'étais délégué du CINERPA dans le passé, dans le département de l'Allier. Et ma question est la suivante. J'ai créé, donc, suite aux différentes EHPAD qu'il y avait dans le département, où il y en avait beaucoup, j'ai créé donc la première résidence service à Vichy, pour ne pas nommer la ville. Et j'ai 7 ans d'existence. Alors, maintenant que vous avez parlé des GMP, vous n'avez pas parlé de GIR. Et aujourd'hui, bien, je voudrais savoir, puisque après 7 années d'existence de ma résidence service, il y a la dépendance qui commence à survenir. Et je voudrais savoir donc quelle est la politique des pouvoirs publics, justement. Vous avez parlé du Conseil général. Et jusqu'où, justement, je peux aller par rapport à ce GIR qui va forcément un jour baisser. Et voilà mon interrogation. Quoi.
Alors... Comme le phénomène émerge, on n'a pas des réponses à toutes les questions, y compris les pouvoirs publics, je veux dire. La question s'est posée aujourd'hui, non pas pour les résidences seniors, mais pour les logements foyers. Dans mon rapport, pas celui-ci, mais celui que j'ai rendu au gouvernement en 2013, moi je prenais que les foyers logements remontent à 500 GMP, hein, contre 300 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, comme j'estimais que les EHPAD, désormais, comme je vous l'ai dit, tendaient vers 700-800, eh bien, du coup, se créait une espèce de no man's land. Les foyers logements à moins de 300, les EHPAD à 700, et au milieu, la maison de retraite, un peu pour valide, quand même, voilà, où on n'est pas complètement valide, mais on n'est pas dépendant, et on n'est pas Alzheimer, bah, cette maison de retraite-là, elle ne va plus exister. Bon. Parce que celle qui est comme ça aujourd'hui, bah, elle va assez rapidement dériver vers l'EHPAD plus médicalisé, et dans les nouvelles créations, aujourd'hui, on n'autorise plus un EHPAD à 500. Hein. Et donc, je proposais que le logement foyer passe de 300 à 500. Bon, c'est pas la proposition qui a été retenue, elle était beaucoup trop simple, donc les pouvoirs publics ont inventé une règle beaucoup plus compliquée. Mais au fond, qui revient à peu près au même, c'est de dire que dans les logements foyers demain, on n'a pas le droit de dépasser 20% de personnes en GIR 1, 2, 3. Mais c'est très important, parce que ça veut dire que jusqu'ici, le logement foyer était le seul endroit du monde où on n'a pas le droit de vieillir. En maison de retraite, vous pouvez vieillir et devenir dépendant et mourir. À domicile, personne ne voudra vous déloger de chez vous parce que vous êtes dépendant. En logement foyer, oui. Donc vous avez le droit de rentrer valide en logement foyer, mais vous n'avez pas le droit de voir votre état de santé se dégrader parce qu'en ce moment, on vous dit « allez, ailleurs ». Donc, cette soupape de sécurité me paraît une bonne mesure. Elle est conclue, elle est dans la loi. Ça veut dire qu'on a le droit, désormais, d'être GIR 1 dans un logement foyer. Il ne faut pas qu'elle ait 50%, mais on a le droit. Voilà. Et comme tout le monde ne meurt pas en GIR 1, eh bien, peut-être qu'il y aura cette régulation qui permettra aux personnes de vieillir. Ceci étant dit, une fois que j'ai dit ça, ça vaut pour les logements foyers. Ça vaut pour les logements foyers qui sont inclus dans la loi sociale et médico-sociale. Mais quid pour les résidences seniors? Les résidences seniors, au fond, on pourrait très bien dire, mais c'est du logement. Et donc, si j'ai le droit de vieillir, de devenir grabataire et Alzheimer et cul-de-jatte chez moi, j'ai parfaitement le droit de l'être dans mon chez-moi d'une résidence senior. Sauf que vous voyez bien quand même la difficulté à un moment donné. Si vous vous retrouvez avec 80% de personnes Alzheimer dans une résidence senior, ça va commencer à grincer quand même. Bon, ben on verra bien. Faut-il, oui ou non, que la règle qui s'impose au logement foyer s'impose aux résidences seniors? Des professionnels m'ont déjà dit que, avec les dialogues avec les pouvoirs publics, pour certains, commencer à rendre, à indiquer que la règle qui existe, par exemple, oui, pardon, c'était les commissions de sécurité incendie, voilà, qui appliquent aux résidences seniors, cette future, elle n'existe même pas encore, hein, mais cette future réglementation qui sera applicable au logement foyer. Comme un pompier qui dit ça, de toute façon, il est tort ou il a raison, il a forcément raison puisque c'est lui qui décide, que ce soit légal ou pas légal, bon, il faudra régler à un terme la question, au moins pour la question sécurité incendie. Sur la question plus sanitaire, la question est ouverte. La question est ouverte. Soit c'est du domicile, soit on se met en tête, une bonne fois pour toutes, que c'est du domicile, auquel cas il n'y a rien à dire. Soit, au fond, on n'arrive pas à se dire, c'est que c'est complètement du domicile, parce que quand même, 80 domiciles groupés, ça reste quelque chose qui ressemble à un établissement, même pour personnes valides, et auquel cas, on dira qu'on ne peut pas... et peut-être qu'on y appliquera la règle des foyers logements. Mais là, je fais de la prospective, parce que y a, enfin, comment dire, la question que vous posez n'a pas de réponse légale à ce jour. Mais je veux revenir sur le premier point que vous avez évoqué, en rappelant que vous étiez dans le monde des EHPAD. Moi, il y a quelque chose sur lequel je veux insister, c'est que je pense que les résidences seniors, comme madame l'a dit tout à l'heure, c'est un vrai produit qui a sa vraie légitimité. Et qu'il ne faut pas faire une résidence senior si on n'y croit pas. Il ne faut pas faire une résidence senior en se disant, à la première opportunité venue, je la transforme en maison de retraite, en EHPAD. Il y en a qui ont fait ça. Mais s'ils font ça, ils tombent à côté, ils n'y croient pas. Ils en font un pis-aller. Et si vous faites un pis-aller, si la résidence senior, c'est la maison de retraite de celui qui n'a pas pour l'instant d'autorisation, mais qui espère bien un jour l'avoir, ça ne sera pas... ah oui, mais comme ça existe, bon... voilà. Non, je pense qu'il y a des vrais professionnels des EHPAD, il y a des vrais professionnels des résidences seniors, qu'à un moment donné, il peut y avoir des professionnels des deux, mais c'est deux choses différentes. Voilà. Il ne faut pas considérer... la résidence senior comme une maison ou un EHPAD en devenir. Parce que là, on rate sa cible.
Monsieur Broussy, donc moi je suis un hurluberlu, comme vous dites, puisque je suis un ancien photographe qui a ouvert une maison de retraite en 1987. Donc, et j'étais adhérent au CINERPA, j'ai monté un établissement que monsieur Broussy connaît, puisque j'étais adhérent, donc... pendant les 12 ans où il a été au CINERPA, et je voudrais intervenir sur cette question-là, parce que j'ai aussi créé une résidence senior en 1996, à l'époque, enfin, la conception date de 96, elle a ouvert en 98, donc c'est à une époque où ça n'existait pas vraiment, c'était une résidence senior locative, que j'ai créée sur hier, 67 logements, où justement j'ai fait une ouverture, puisqu'il y avait un restaurant qui était aussi ouvert à la clientèle extérieure, il y avait un centre de balnéothérapie, il y avait piscine, etc., et je dirais, ce que j'ai créé en 96-98, c'est ce qui est en train de naître aujourd'hui. Et c'est un succès. Ça a été un succès sur le plan de l'exploitation, ça a été un succès sur le remplissage, c'est toujours un succès, ça marche très bien, mais c'est aussi un échec. Parce que comme à l'époque, personne n'y croyait, personne ne connaissait la résidence senior en 96, personne ne connaissait. Moi j'y ai cru, mais aucun banquier n'y a cru. Donc on est passé par le biais de la promotion immobilière. On a vendu à des investisseurs. À l'époque, c'était la loi Périssol. Et aujourd'hui, je me retrouve avec un souci énorme, c'est que j'ai par derrière 66 investisseurs qui veulent récupérer leurs biens parce qu'ils résilient le bail commercial. Donc le problème, il était là. Je pense que si je devais refaire le projet aujourd'hui, je le ferais différemment. Et puis aujourd'hui, je pense que j'aurais plus d'écoute de la part des banquiers parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, les pouvoirs publics, tout le monde s'intéresse à la résidence senior. Mais pensez en 96 à l'époque, qui croyait en ça? Hein, c'était vraiment... à l'époque, il n'existait que des promotions immobilières où les gens achetaient des appartements. Il n'y avait rien de locatif. Voilà. Mais je voudrais revenir sur le plan du problème du vieillissement. Alors, vous avez parlé du problème sanitaire et social, celui du GIR moyen, qu'on n'a pas le droit de dépasser 300-500. Tout à fait d'accord. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais... assister et préciser, parce que j'ai étudié cette situation très récemment dans le cadre d'un projet qui est en cours à l'heure actuelle, c'est le cadre de la sécurité incendie. Il existe une circulaire, je l'ai ressortie ici, je l'ai là, c'est la circulaire 2007-36. C'est une circulaire ministérielle qui date du 15 mai 2007, qui régit précisément en matière d'incendie le cas des résidences qui reçoivent des personnes âgées. Globalement, ça concerne les logements foyers, mais ça correspond aussi aux résidences seniors. Et il est clairement dit sur cette circulaire que la possibilité aujourd'hui de construire une résidence senior en termes d'habitation, enfin en logement, est une dérogation. C'est tout à fait possible, mais le promoteur qui crée ce genre de résidence, en termes d'habitation, s'interdit à l'avenir de pouvoir garder la moindre personne dépendante. Si vous voulez construire une maison de une résidence senior qui est susceptible par la suite d'accompagner le vieillissement de la personne âgée, vous êtes obligé de faire un établissement de type J. Un type J parce qu'en sécurité incendie, c'est la seule chose que les pompiers vous autoriseront à faire, si vous voulez pouvoir conserver des personnes dépendantes, c'est une question de sécurité. Un type J, vous avez des désenfumages, vous avez des alarmes incendie, vous avez des évacuations facilitées par des issues de secours, vous avez des équipements adaptés à la dépendance. Si vous faites une résidence avec service pour les seniors, qui n'est pas en type J, vous ne prendrez jamais de personnes dépendantes et vous ne pourrez jamais accompagner le vieillissement. C'est clair et net et c'est une circulaire officielle, elle date de 2007. Voilà.
Non mais je n'ai rien à redire à ça, vous avez apporté ce point d'information qui est évident. Et je me rappelle très bien de votre résidence, mais effectivement, le problème c'est que... Ça a bien marché aussi parce que vous étiez hier. Je pense que la même résidence en 96 à Romorantin, ça fait longtemps qu'elle aurait plongé. Bon, vous aviez l'environnement quand même où je vais passer ma retraite un peu à la cool. C'était déjà quelque chose qui, sur le pourtour méditerranéen ou atlantique d'ailleurs, pouvait se... Mais le phénomène sociologique tel que j'ai décrit tout à l'heure, il n'était clairement pas mûr à l'époque. Voilà. Et c'est aussi pour ça que les résidences seniors, elles émergent aujourd'hui parce qu'elles émergent dans un contexte que j'ai voulu décrire en introduction. Et ce contexte-là, ce n'était pas le contexte d'il y a 15 ans, 20 ans. D'ailleurs, il y a quelques résidences qui se sont totalement cassées la gueule. Hein. Bon. Il y a encore d'ailleurs pas si longtemps, celles qui se sont créées il y a une dizaine d'années. Certaines réussissent très bien, et puis d'autres se sont cassées la figure parce que ce n'était pas le bon moment au bon endroit. Donc, monsieur, pour une petite dernière, pour pas que les rangs s'effritent au fur et à mesure. Et après, par contre, on peut continuer après à discuter, si vous voulez.
Non, c'était juste pour vous appuyer tout à l'heure quand vous disiez que la résidence service doit être en plein centre. Et effectivement, quoi, je veux dire, quand je l'ai créé, j'ai eu aucun souci pour remplir cette résidence qui est située vraiment en hyper-centre de la ville, entre le Monoprix et l'église, vous voyez, et les parcs, et ainsi de suite. Et je veux dire, de là aujourd'hui, on a tellement de demandes. Je veux dire qu'on va faire une extension probablement, puisqu'on a obtenu le permis de construire. Et à l'intérieur, on va recréer une société, vous voyez, où on va faire un centre agréé à ARS, d'ailleurs, pour la prévention des chutes et risques de chute chez la personne retraitée, donc pour tout le département. Donc ça me paraît, vous voyez, c'est... Et puis créer aussi donc un service à la personne, l'agrément qualité, l'agrément simple, quoi. Et restaurant, évidemment, quoi. Et de là, eh bien, ça, il n'y a aucun souci, oui.
Non, mais bien plus que l'EHPAD, la localisation géographique est un élément majeur de la résidence senior, bien plus que l'EHPAD. L'EHPAD, vous êtes contraint d'y aller. Alors, s'il faut faire 500 mètres de plus, on le fait. Mais là, le lieu de vie, tous les géographes montrent que le lieu de vie d'une personne qui n'a pas de voiture, c'est 400 à 500 mètres. Voilà. Et on montre également que, pour une personne isolée, 80% des relations sociales, c'est avec le boulanger, le boucher et le pharmacien. Bon, donc si vous lui enlevez le pharmacien l'accès au boulanger et si vous lui enlevez l'accès à l'arrêt de bus pour aller au cimetière ou à l'hôpital, vous enlevez 80% de la vie sociale d'une personne. Donc à l'évidence, ça. Puis un deuxième phénomène que moi je mesure de plus en plus dans les villes importantes et moyennes, c'est les seniors qui reviennent en centre-ville, avec ou sans résidence senior. J'étais à Dijon il n'y a pas longtemps, la maire adjointe de Dijon me décrivait ce phénomène de manière très claire. Des personnes âgées qui avaient leur pavillon de banlieue ou de village ou de périurbain se recentrent en centre-ville. Du coup, les loyers remontent un peu, des appartements bourgeois de Dijon. Et puis les familles, les jeunes couples avec des enfants, ils n'ont plus trop les moyens de se payer ça. Et bien, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter le pavillon de banlieue qui vient de se libérer. Donc, il y a des phénomènes démographiques comme ça, qui commencent à... et je l'ai vécu aussi à Bourg-de-Péage, dans la Drôme, où il y avait une résidence senior... ou un habitat collectif qui se créait en plein centre-ville et qui était pour héberger des personnes âgées, souvent veuves ou veufs, qui habitaient dans des habitats un peu disséminés dans les 5 à 10 km aux alentours de Bourg-de-Péage. Bon, donc ces phénomènes des personnes dès aujourd'hui, c'est pas de la science-fiction, c'est pas 2030 l'Odyssée de la résidence senior, non, c'est aujourd'hui que ces phénomènes de recentrage en centre-ville ou en centre-bourg commencent déjà. Voilà, écoutez vos applaudissements vont aussi à notre consultant Aurélien Bordet, qui est ici avec moi là au premier rang et qui a été l'auteur de ce rapport qui sera publié d'ici une quinzaine de jours. Et donc, vous le trouverez sur les sites internet bien informés, et notamment sur HPA.fr, le site de nos journaux. Voilà. Et puis merci aussi aux cinq promoteurs de résidences seniors qui ont travaillé avec nous sur ce rapport et qui ont souhaité qu'on fasse cette étude, pas seulement pour louer les maisons de retraite, les résidences seniors, mais pour aussi qu'à un moment donné, les élus locaux comprennent le phénomène et comprennent ses ressorts. Parce que c'est important, pas seulement d'être persuadé que c'est un type d'établissement qui colle à la société du moment, mais il faut aussi maintenant que les élus locaux et que l'ensemble des pouvoirs publics aient bien en tête qu'on n'est pas là dans la résidence pour riches ou bien dans l'épiphénomène, mais qu'on est vraiment dans un phénomène de société. Voilà, donc merci à eux de nous avoir aidés à avoir produit cette étude qu'on a un peu décrite ce soir, mais qui sera publiée dans 15 jours.